Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au système d'intelligence artificielle, un terme qui peut parfois effrayer, sans doute à cause des représentations biaisées diffusées par le cinéma ou bien les séries, car l'IA est déjà présente dans notre quotidien. On en parle avec Jérémy Méo, senior data scientist au Labia Loire-Vallée, basé dans le Loiret à Orléans. Pour commencer, revenons avec lui sur la définition de l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle, c'est faire à une machine, un ordinateur, quelque chose pour lequel l'humain est doué. Et après, alors il y a plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. Il y a un niveau un peu basique où on dirait à la machine, on programmerait la machine, l'humain programme la machine pour que la machine refasse exactement les instructions. Un cas un peu facile et qui peut parler à tout le monde, c'est le jeu du qui est-ce, où vous avez un ensemble de photos de personnes et le but c'est de reconnaître, d'essayer de deviner chez son adversaire quel personnage il a. Vous avez donc ces figures qui ont des cheveux blonds, noirs, des personnes chauves, des personnes à lunettes, etc. Et donc l'idée de l'intelligence artificielle bas niveau, on va dire, c'est si l'individu est chauve, alors je pose une autre question. Est-ce que l'individu est un homme ou une femme? Est-ce qu'il ou elle a des lunettes, etc. Et donc vous programmez la machine au fur et à mesure. Et la machine applique les règles que vous définissez. Il y a un niveau intermédiaire qui est l'apprentissage machine, où à ce moment-là, l'humain renseigne un certain nombre de caractéristiques par rapport au personnage que vous avez sur vos cartes. Vous constituez par exemple un fichier où vous avez un certain nombre de lignes qui correspondent au personnage. Pour chacun de ces personnages, vous avez savoir si c'est un homme ou une femme, si elle a des cheveux, etc. Et finalement, la machine va d'elle-même identifier les caractéristiques qui semblent pertinentes pour répondre à une question. C'est-à-dire, est-ce que le personnage est, si vous essayez d'identifier les personnages qui ont des boucles d'oreilles, alors la machine, elle va identifier de façon assez certaine que principalement les personnages sur vos cartes qui ont les boucles d'oreilles sont les femmes. Et donc, les caractéristiques importantes, ce seront le sexe du personnage sur votre carte pour répondre à cette question. Et ensuite, vous avez un niveau beaucoup plus avancé, on va dire, qui fait, comme on dit, le buzz depuis quelques années, qui est l'apprentissage profond, deep learning, qui est en fait un nouveau paradigme, si on peut dire, où la machine identifie par elle-même les caractéristiques et leur importance dans la résolution de la question. L'humain, maintenant, à ce niveau-là, n'intervient plus que pour concevoir le programme, concevoir l'architecture du programme, et le programme va apprendre, entre guillemets, tout seul. Va identifier les caractéristiques importantes et le poids de chacun pour répondre à la question.
Est-ce que ces systèmes d'intelligence artificielle, ce sont des choses que l'on développe depuis longtemps ?
Alors, l'intelligence artificielle, elle se base sur des outils mathématiques et statistiques qui sont connus depuis très longtemps. Les outils statistiques, ça peut être cette fameuse loi de Courbancloche, de Gauss, d'autres lois de probabilité. Et en fait, l'intelligence artificielle s'est nourrie de l'évolution des techniques mathématiques et des technologies informatiques pour prendre son essor il y a quelques dizaines ou vingtaines d'années. L'intelligence artificielle, il faut plutôt voir ça comme des algorithmes. Les algorithmes existent dans le monde de la recherche depuis bien longtemps. D'un point de vue historique, les banques, les assurances qui avaient accès à des masses de données sur leurs clients très importantes se sont mis à utiliser ces outils. Et puis après, avec l'essor des réseaux sociaux, du commerce en ligne et d'Internet, ça s'est développé encore.
Et c'est quelque chose donc qui est présent en fait dans notre quotidien.
Exactement. L'objet le plus proche de vous, probablement, c'est votre téléphone portable ou votre ordinateur. Et alors, sur le téléphone portable, vous avez des capteurs. Ces capteurs récoltent de l'information. Ça peut être la localisation. Ça peut être. Vous avez un aimant aussi, un capteur magnétique. Vous avez un micro, ce genre de choses, un capteur de luminosité. Et avec tout ça, vous captez des informations sur votre environnement et en fonction de l'usage que vous voulez faire de tel ou tel capteur, vous avez des applications qui existent. Un exemple, ça peut être la transformation de voix en texte. On appelle ça le speech to text. Donc quand vous voulez taper un message à quelqu'un et ou que vous voulez lui envoyer du texte et que vous ne voulez pas le taper, vous parlez au micro du téléphone et vous avez une conversion entre la parole et le texte. Voilà, c'est un système d'intelligence artificielle qui fait ça.
Et dans quels autres domaines on peut trouver, voilà, des applications de ces systèmes d'intelligence artificielle?
Alors, c'est utilisé globalement dans tous les domaines d'activité. Alors, évidemment, marketing, banque. Alors, dans le marketing, le but, c'est de faire, par exemple, du marketing géolocalisé. Autrement dit, quand vous promenez en ville, alors il faut que les villes soient couvertes, bien sûr, mais quand vous promenez en ville, vous pourriez recevoir des promotions en fonction de votre localisation par rapport à des magasins qui seraient affiliés à certaines enseignes. C'est un des exemples. Dans la banque, l'exemple le plus parlant, c'est l'attribution des crédits immobiliers, par exemple, ou de la détection de fraude bancaire. Vous avez dans le domaine automobile, alors dans votre voiture, en fait, vous avez de l'intelligence artificielle sur la gestion de la conduite, tout ce qui est assistant d'aide à la conduite. Ce sont des systèmes. Des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle qui font le travail, savoir si vous avez votre vitesse relative au véhicule de devant est trop importante. Autrement dit, si vous allez trop vite sur un obstacle, vous avez votre voiture qui va se mettre à biper. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses. Dans l'environnement, identification des hauteurs de stock d'eau, un sujet d'actualité. Dans les nappes phréatiques, vous avez dans le domaine de la santé, bien évidemment, aide aux médecins pour identifier des pathologies sur des images radio, sur des IRM. Voilà, c'est tout le quotidien. Alors évidemment, on le voit pas parce que le paradoxe, c'est enfin le paradoxe. Disons que plus une technologie est compliquée, plus son usage va être simplifié. Et finalement, ce que l'utilisateur voit, c'est uniquement une sorte d'interface avec une réponse qui est très très simple. On a entendu parler d'Ali, par exemple, qui est un système d'intelligence artificielle qui est capable, à partir d'une phrase, d'une phrase ou de texte, de créer un dessin. Le dernier en vogue, c'est ce fameux chat GPT qui est capable, à partir d'une phrase, de construire un texte où effectivement l'interface est très compliquée, mais est très simple, mais le modèle derrière est extrêmement complexe.
Et n'importe quelles données peuvent être utilisées par ces systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui?
Alors, dans l'usage des données, il y a plusieurs niveaux. Je vais faire un préambule, en fait, L'usage des données amène à plusieurs niveaux d'exploitation. Tout d'abord, quand on a des données, on peut faire de la mesure et du coup, on peut les voir. C'est-à-dire afficher un indicateur, par exemple, voir l'évolution de la consommation énergétique en France. Et puis ensuite, on peut essayer de comprendre quelles sont les valeurs de cet indicateur. Pourquoi est-ce que cet indicateur augmente? Pourquoi est-ce qu'il diminue? Et donc, on est plus dans une phase de compréhension. D'analyse finalement des données et d'analyse statistique, mais dans cette phase-là, on peut faire appel à des systèmes d'intelligence artificielle pour essayer d'identifier les facteurs qui impactent l'évolution ou la valeur de ce que vous voulez, de ce que vous voulez étudier. Et puis enfin, il y a le dernier niveau qui est le niveau de prévoir et adapter et anticiper des phénomènes. Et à ce moment-là, effectivement, ce sont des systèmes de prévision de hausse de température, par exemple, de niveau d'eau dans les nappes phréatiques qui sont à mettre en place. Et là, encore une fois, ce sont des systèmes d'intelligence artificielle basés sur les mathématiques et les statistiques qui vont être à l'œuvre. En fait, votre vraie question, c'était est-ce que toutes les données peuvent être utilisées? La réponse est oui. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tout type de données peut être utilisé. C'est-à-dire que quand sur votre téléphone vous avez le capteur de luminosité, bah, vous pouvez avoir la luminosité au cours du temps de la journée. Vous avez des données qui sont donc chronologiques, qui sont temporelles. Vous avez des données qui sont sous forme de tableau. Une image est une donnée, un film est une donnée. Même un document papier est de la donnée. Il suffit de le, alors le suffire est entre guillemets parce que la chose n'est pas forcément simple, mais il suffit de le scanner et de le faire interpréter par des outils informatiques pour pouvoir récupérer et collecter les informations présentes sur ce papier numérique. Toutes les traces d'activité des utilisateurs sur Internet ou sur tel ou tel site sont des données et donc tout cela peut être utilisé. La question, l'usage des données n'a pas de pertinence sans question qui est posée, sans intention. Donc, c'est ce qu'on dit à nos clients au Lab IA Loire-Vallée, c'est que avant de collecter de la donnée, il faut savoir pourquoi faire.
Et quels avantages peuvent trouver les entreprises à utiliser ces systèmes d'intelligence artificielle?
Les systèmes d'intelligence artificielle, en fait, ont plusieurs usages, enfin plusieurs capacités pour nos clients. Le premier est, je vous l'ai dit, de comprendre ce qui se passe dans leur process. Ça peut être pour une entreprise industrielle qui fait de la découpe sur tôle ou sur plaque de bois, par exemple, ou de plexi, c'est de comprendre quelle est l'évolution de perte de matière au fur et à mesure de ces process. C'est mettre en place un système qui déjà calcule cette perte de matière et ensuite d'essayer de trouver les leviers qui font que on va être capable de réduire ces pertes. Voilà, c'est un exemple très concret dans l'industrie. Pour le domaine de la cosmétique, par exemple, ça peut être la création de parfums, les nez, donc les personnes qui créent les parfums, ont tout un tas de tests d'assemblage et au final, vous n'avez que très peu de parfums qui sont commercialisés par rapport à tout ce qui a été créé en laboratoire. Et donc, une façon d'optimiser, et pas forcément d'optimiser, mais d'aider les nés à créer leurs parfums, ça peut être de développer un algorithme qui soit capable de faire des propositions d'assemblage qui ne soient pas inutiles. Donc ça peut être de l'aide à la créativité aussi. Dans le domaine industriel, encore une fois, quand vous avez une chaîne de production et que la chaîne de production s'arrête à cause d'une panne, l'industriel est quand même bien embêté. Et donc, vous avez aussi des systèmes d'intelligence artificielle de détection de fraude. On appelle ça de la maintenance, de faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire intervenir sur la machine avant que la panne n'ait eu lieu.
Mais je suppose que ces systèmes d'intelligence artificielle ont quelques limites aussi.
Alors, ils sont à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que quand vous développez un système d'intelligence artificielle, il se base sur des données. Ces données peuvent évoluer au cours du temps. Par exemple, la location des vélos dans une ville, c'est un phénomène qui est saisonnier. Vous avez une saisonnalité dans la journée. C'est-à-dire que vous allez avoir un pic de location de vélo le matin et le soir, et puis entre midi et deux, pas grand-chose. La nuit, pas grand-chose non plus. Vous allez aussi avoir des pics annuels, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être plus de location de vélo en été qu'en hiver. Et donc, si vous développez un système d'intelligence artificielle, un système de prévision des locations de vélo juste pour l'été avec les données que de l'été, votre prévision ne pourra pas s'adapter à l'hiver. Autrement dit, le périmètre pour lequel votre modèle de prévision est prévu, il est figé. Donc, vous avez toute cette limitation qui est présente, qu'il faut prendre en compte si vous voulez avoir un système un peu plus complet. Donc ça, c'est la première limite des systèmes d'intelligence artificielle, c'est lié au périmètre de la question que vous posez et à laquelle vous voulez répondre. La deuxième est dans l'usage. Vous avez des limites qui sont dans les usages, dans le sens où si vous avez un système d'intelligence qui agit ou qui interagit plutôt avec la vie des personnes, ben vous allez devoir prendre en compte certaines questions. On parle beaucoup d'IA responsable en ce moment. Et donc, vous avez besoin de bien définir le périmètre pour lequel vous allez travailler. Je repense encore à la cosmétique, mais si vous voulez développer un projet qui essaye d'identifier des couleurs de peau pour faire de la proposition de produits cosmétiques, vous allez devoir posséder dans vos données ou acquérir des données, des images de visage qui correspondent à l'ensemble de la palette de couleurs de peau qui existent pour ne pas faire de discrimination. Donc faire en sorte que vous avez de l'inclusion dans les systèmes, le fait que les systèmes ne soient pas biaisés, c'est-à-dire qu'ils soient équitables, que personne ne soit stigmatisé vis-à-vis de la décision proposée par le système d'intelligence artificielle. Et là-dessus, en fait, la réglementation va dans ce sens-là, notamment au niveau européen. En tout cas, au niveau européen, il y a des travaux qui sont menés là-dessus. Il y a une réglementation des usages qui est en train d'être travaillée à travers l'IA Act, l'acte intelligence artificielle, dans lequel vous avez trois catégories de risques qui sont définies. Un risque inacceptable, c'est-à-dire que le système d'IA qui serait développé menacerait le comportement humain, c'est-à-dire imposerait une vision aux personnes. Vous auriez un niveau de risque élevé, par exemple sur la mise en danger des citoyens, l'action ou une aide à la décision un peu trop poussée sur le parcours professionnel, l'emploi, la sécurité, des domaines comme la justice, par exemple aussi, sur le choix de telle ou telle peine vis-à-vis d'un contrevenant et d'un contexte. Et puis une catégorie qui serait limitée où là, a priori, aucune réglementation, aucune contrainte ne serait appliquée ou proposée. Donc, on travaille au niveau européen, c'est travaillé, et après, du coup, ça redescendra au niveau national.
Est-ce qu'à terme, on peut imaginer que les systèmes d'intelligence artificielle vont remplacer des humains ou il y aura toujours besoin d'être humain pour configurer ces logiciels, par exemple ?
Alors, l'humain est toujours à la base. D'ailleurs, dans ce qu'on appelle IA responsable, il y a un des paradigmes qui est que l'humain doit rester dans la boucle. Autrement dit, l'humain doit rester maître de la décision proposée par le système d'intelligence artificielle. L'humain doit pouvoir corriger ce que la machine propose, et cette machine, elle ne peut pas se programmer elle-même. La machine, le système d'intelligence artificielle, il est programmé pour une tâche qui est bien précise. Il est incapable d'étendre son périmètre d'action. Autrement dit, si on crée tout d'abord un système qui est capable de téléphoner, il va pas être capable de faire autre chose que de téléphoner ou que de faire de la conversion de voix en texte. C'est absolument impossible. Donc il y a toujours besoin d'humains pour programmer et il y aura toujours besoin d'humains pour corriger ce qui se passe. Et il y aura toujours besoin d'humains, et ça c'est un peu le côté caché de l'intelligence artificielle, en tout cas d'un point de vue reconnaissance d'image par exemple, on aura toujours besoin d'humains, d'experts, pour annoter les documents que l'on veut faire ingérer à l'intelligence artificielle. Cette notion d'annotation, c'est quelque chose qui est très coûteux, mais c'est comme ça que les algorithmes sont capables de reconnaître si sur une image vous avez un chien, un chat, une voiture, une trottinette, etc. C'est parce que tout d'abord, vous avez eu des humains qui ont annoté sur chacune des images la présence de chiens, de chats, de voitures et d'avions.
Est-ce que ces systèmes d'intelligence artificielle vont menacer certains métiers ou les menacent déjà?
Alors oui, il y a des métiers qui sont comme toute transformation dans une société, il y a des emplois qui sont réorientés, notamment l'intelligence, enfin les systèmes d'intelligence artificielle permettent de remplacer du travail ou des actions ou des process qui sont à très faible valeur ajoutée, autrement dit des tâches qui sont répétitives et inintéressantes pour les personnes qui font ces actions. Ça c'est le premier point. Ensuite, vous avez ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont là aussi pour optimiser des process, hein, c'est-à-dire identifier des leviers d'action qui répondraient à une volonté de rapidité d'exécution d'une certaine tâche, de plusieurs tâches. Voilà, des métiers sont détruits, j'allais dire, mais pas détruits, c'est plutôt réorienté, même titre que ce qu'on peut voir, par exemple, dans les pharmacies avec la télémédecine qui arrive. C'est pas de l'intelligence artificielle, mais ça permet d'illustrer quand vous avez une borne de télémédecine qui arrive dans une pharmacie, la pharmacienne n'est plus uniquement pharmacienne, mais va aussi pratiquer des tests de détection de bactéries ou de virus pour appliquer le bon médicament proposé par le médecin. Donc voilà, c'est un exemple de transformation de métier lié au numérique, mais qui n'est pas exclusif à l'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, toutes les entreprises s'intéressent au système d'intelligence artificielle.
Alors oui, au Labdier à Loire-Vallée, on accompagne les entreprises de toute taille, hein, depuis les startups jusqu'aux grands groupes sur la région Centre-Val de Loire, mais aussi grâce à des partenariats un peu plus loin du territoire, pour les aider selon quatre axes en fait de travail. Tout d'abord, un axe de sensibilisation, parce qu'effectivement, il faut comprendre de quoi il s'agit, quels sont les enjeux, les limites, tout ce qu'on vient de dire. On a aussi une notion de formation, c'est-à-dire faire monter en compétence les personnes au sein des entreprises pour qu'elles puissent s'approprier l'usage des données. Alors à différents niveaux, bien sûr, ça peut être dans un premier temps être capable de se rendre compte de la valeur qu'ont les données dans les entreprises, et puis un axe d'accompagnement et de réalisation de projets. Et les entreprises sont intéressées, puisque évidemment l'intelligence artificielle est un mot à la mode depuis quelques années, et donc on voit un peu ce que l'on pourrait en faire, mais l'appliquer directement sur un cas d'usage métier, comme on dit, c'est-à-dire sur à quoi pourraient bien me servir ces systèmes. Effectivement, ça peut soit poser question, et donc on accompagne pour comprendre, soit des entreprises ont déjà une bonne idée de ce qu'elles voudraient faire et on accompagne à un niveau un peu plus élevé. En tout cas, pour les entreprises qui arrivent ne sachant pas trop quoi faire de leurs données, on est toujours sur cette vision. D'abord, on voit, ensuite, on essaye de comprendre l'indicateur qu'on a identifié, et puis ensuite, on essaye de prévoir et d'adapter en fonction de la question qui est posée et du besoin de l'entreprise.
Et actuellement, quels sont les besoins de ces entreprises, justement ?
C'est assez varié, mais globalement, les besoins, c'est, comme je vous disais, c'est... soit les entreprises ont un projet qui est bien défini et à ce moment-là, on va pouvoir les aider à réaliser ce projet pour que ce soit un succès. Donc, il y a toute une méthode de travail à mettre en place. Et les sujets peuvent porter sur l'optimisation de process, c'est-à-dire identifier les bons leviers pour limiter les essais en laboratoire, par exemple. Ça peut être de la maintenance prédictive, faire en sorte d'identifier les pannes avant qu'elles n'arrivent. Ça peut être de l'optimisation de fonctionnement d'un système industriel. Ça peut être de l'identification d'objets sur les images pour mener à l'action. Et à chaque fois sont très variés. Ça peut être dans le domaine marketing, ça peut être dans l'énergie, ça peut être dans l'environnement. On est en fait dans une région avec beaucoup d'entreprises de domaines variés et finalement, le domaine, en tout cas pour nous, le domaine est un contexte, mais les systèmes qu'on met en place sont assez transverses finalement.
Merci Jérémy Méo. Je rappelle que vous êtes senior data scientist au Labia Loire-Valais. Voilà, c'est la fin de ce podcast consacré aux usages du quotidien des systèmes d'intelligence artificielle.